16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Bonjour à tous et bienvenue dans Historiquement vôtre, l'émission qui chaque après-midi vous raconte l'histoire sans se la raconter, en compagnie d'un garçon pas comme les autres. Et moi je l'aime bien, c'est pas ma faute. Bonjour Mathieu Noël.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous, moi aussi je vous adore. Non seulement parce que vous êtes un formidable animateur, mais aussi parce que vous êtes d'un altruisme admirable. Dernier exemple en date, cette école que vous avez créée, la Bern Academy of Good Manners, qui permet aux jeunes d'acquérir un savoir-vivre et d'apprendre dans quel ordre placer les cuillères à table.
Pour 500 francs, enfin 500, c'est le prix de départ.
Oui, de l'heure bien sûr, vous n'acceptez pas l'échec, c'est magnifique. Mais dans l'histoire, Stéphane, d'autres avant vous ont ouvert des écoles.
Ah si, je m'attendais à ça. Oui, c'est même le point commun de nos trois personnages cet après-midi, Mathieu. En ce jour de rentrée des classes,
bien
ça
sûr.
Ne nous a pas échappé.
Ah non.
À commencer par Florence Nightingale, qui a fait un métier qui était très mal vu à son époque. Dans les années 1800, elle était infirmière. Ouh. Elle a même converti de nombreuses jeunes filles qui en ont fait de même en fondant sa propre école. Puis je vous raconte celle qui a ouvert une école pas comme les autres, Maria Montessori, et sa méthode d'éducation bien particulière qui s'est depuis largement développée dans le monde entier. Vous savez, ces écoles où on peut passer une après-midi entière à regarder des fourmis.
J'aime bien ce résumé de la méthode Montessori.
Il n'y a pas que ça, mais c'est l'éveil de l'enfant, son bien-être, n'est-ce pas? De votre côté, Mathieu, parce qu'il a monté une école aussi, vous nous raconterez le destin hors norme de celui dont certains experts affirment qu'il serait aujourd'hui le meilleur joueur de basketball de tous les temps, devant Michael Jordan.
N'exagérons pas, Stéphane. LeBron James est un immense joueur, mais pas meilleur que Michael Jordan.
Ah si.
Non.
Ah si.
Non, absolument pas. Non,
je vous dis si en fait.
Non. Mais un point en moins pour Castello dans la lutte finale.
Ah
aujourd'hui,
ouais, d'accord.
Je vous parle du très bon joueur de basket LeBron James qui a lui aussi en effet créé son école, une vraie, hein, pas une école de basket, dans le quartier où il est né. Et son destin, vous allez voir, est assez romanesque.
Et avec nous, comme chaque jour, celle qui nous entraîne dans l'intimité des grandes semondes, Clémentine Portier-Kaltenbach. Bonjour Clémentine.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'évoquerai pour vous un génie de la poisse. Un génie malchanceux et vis-à-vis duquel la postérité s'est montrée d'une grande ingratitude. Est-ce que son nom vous dit seulement quelque chose, messieurs Arnold Sommerfeld, hein?
Ben
écoutez, en dehors du monde scientifique, il est connu essentiellement pour avoir battu le nombre de nominations au prix Nobel sans jamais l'avoir obtenu. Et ce sont ses élèves, plutôt que lui, qui furent gratifiés de ce prix.
C'est moche.
Avec nous également David Castel-Lopez. Et alors, on remonte avec vous aux origines d'une invention.
Oui.
De quoi s'agit-il aujourd'hui ?
Aujourd'hui, c'est la viande de laboratoire, la viande in vitro, qui tient des promesses depuis longtemps sans. Enfin, qui fait des promesses depuis longtemps sans jamais tout à fait les tenir. Et c'est un peu les plates-bandes d'Olivier Pouls.
Oui, non, pas du tout. Alors là, je vous laisse ce sujet. Va des rétros, Satanas, avec ta viande dégueulasse.
C'est un peu comme votre dessin de Rorschach, le type qui a l'idée de remonter aux origines de la viande in vitro.
C'est chelou. Mais est-ce qu'on va en manger?
Comment?
On va en manger?
Non, malheureusement, ça coûte encore un peu trop cher pour qu'on en mange ici.
C'est trop cher pour un repas.
Mais 500 000 euros le steak.
Je vais voir ce qu'on peut faire pour la fin de l'année.
Et puis Olivier Pouls avec nous. Alors là, on est dans le vrai.
Je vous garantis qu'il sort pas d'un laboratoire de professeur machin Schtroumpf. Là, on va parler du chorizo. Vous savez cette belle spécialité espagnole, ce saucisson épicé ou pimenton.
Ouais.
Et on va le cuisiner aussi, parce que c'était très à la mode, peut-être un petit peu moins maintenant, mais vous savez, à un moment, on mettait du chorizo partout dans les recettes. Et ben, vous allez voir qu'on peut faire des choses surprenantes avec.
Mais vous avez
une glace
recette,
au chorizo.
Mais bien sûr.
Au chorizo.
Mais ça, c'est déjà fait. Ouais.
Hein. S'impose un peu trop, le chorizo. C'est-à-dire que quand il est là, il n'y a plus trop de place pour le reste.
Et là, il faut l'utiliser avec parcimonie.
Quand on fait un sujet sur la viande in vitro, on ne donne pas son avis sur la gastronomie. Enfin, les amis, ceux qui aiment les jeux exigeants intellectuellement, comme le Trivial Poursuite, écouteront Bern to be alive aux alentours de 5h. Et puis ceux qui préfèrent les jeux moins impliquants pour les neurones, tels que la bonne paye ou la course en sac, écouteront la lutte finale en toute fin d'émission. Mais pour l'heure...
Ne dégradez pas un jeu qui évidemment vous est fatal. Mais...
J'ai gagné une fois. Mais pour l'heure, plongeons dans la vie de cette femme admirable qui a révolutionné le métier d'infirmière. Stéphane Bern nous raconte Florence Nightingale.
Europe 1.
16h-18h.
Historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Novembre 1854, nous sommes au cœur du quartier de Scutari à Constantinople, la capitale de ce qui est encore l'Empire ottoman. Dans les couloirs d'un hôpital de fortune aménagé quelques semaines plus tôt, les pas pressés d'une infirmière résonnent. Dehors, la nuit est fraîche et sans étoiles. Une lampe à pétrole à la main, Florence Nightingale déambule entre les lits des milliers de malades qui s'agglutinent ici. Cela fait seulement quelques jours que l'infirmière britannique de 34 ans a débarqué sur le sol ottoman. Elle a été envoyée depuis Londres avec 37 autres gardes malades qu'elle a elle-même recrutés. En poussant les portes de l'hôpital, c'est une vision d'horreur qui s'est tristement imposée à elle. Dans une odeur pestilentielle, partout des blessés, des cris de douleur, des cas de dysenterie ou de choléra. C'est qu'à plusieurs kilomètres de Scutari, la guerre fait rage. La presqu'île de Crimée, qui se trouve sur les rives opposées de la mer Noire, est le théâtre sanglant d'un conflit qui oppose l'Empire russe du tsar Nicolas Ier à une coalition formée par le Royaume-Uni de la reine Victoria, la France de Napoléon III et un empire ottoman en plein déclin. Au mois d'octobre, la bataille de Balaklava a fait son lot de victimes. Des centaines de soldats britanniques mutilés sont acheminés par bateau vers Constantinople dans l'espoir de se faire soigner. Mais à l'hôpital militaire, les conditions sanitaires sont déplorables. Les baraquements sont infestés de rats et de puces. L'eau et la nourriture manquent cruellement. Alors de jour comme de nuit, Florence Nightingale s'active au chevet des malades pour leur apporter soins et réconfort. Elle assiste les médecins, instaure des règles d'hygiène, nettoie les lieux de fond en comble et procède quotidiennement à l'aération des pièces. Elle travaille sans relâche pour améliorer les conditions d'accueil des malades, si bien qu'en 1856, quand la guerre de Crimée s'achève enfin, Florence Nightingale est auréolée de gloire. Quelques semaines après son retour en Angleterre, on la retrouve ainsi dans les salons du château de Balmoral, un vaste manoir écossais qui n'est autre que la résidence d'été favorite de la reine Victoria. Une tasse de thé fumante à la main, Florence Nightingale expose à Sa Majesté en personne tous les défauts du système hospitalier britannique et les réformes qui s'y imposent. Et pour cause, son expérience sur le front lui a inspiré plusieurs ouvrages. Dans ses notes sur l'armée, sur les hôpitaux et sur les soins aux malades, qui fut un grand succès d'édition, Florence Nightingale distille de nombreuses recommandations pour améliorer le système de santé de la couronne. Et son action ne s'arrêtera pas là. L'infirmière chevronnée a maintenant pour projet d'ouvrir une école et de former des centaines de jeunes femmes. À la Nightingale Training School for Nurses, elle révolutionnera le domaine du soin. Mais avant d'être à la tête d'une école et de s'entretenir personnellement avec la grand-mère de l'Europe, il a fallu à Florence Nightingale beaucoup de ténacité. À une époque où la profession d'infirmière était particulièrement mal considérée. La pionnière des soins infirmiers est née à Florence dans une famille fortunée de l'aristocratie anglaise. Haute comme trois pommes, elle passe son temps à poser des bandages sur ses poupées brisées quand sa pauvre mère voudrait qu'elle s'intéresse un peu plus aux aiguilles à tricoter. Mais les années n'effacent pas l'envie de la jeune fille de venir en aide aux personnes mal nées. Dès qu'elle le peut, elle visite les chaumières pour apporter nourriture, remèdes, draps et vêtements aux plus miséreux. Elle en est sûre, Dieu l'a appelée à son service et lui a intimé l'ordre de soigner les nécessiteux. Pourtant, quand Florence annonce à ses parents sa volonté d'étudier à l'hôpital de Salisbury pour y apprendre la profession d'infirmière, les époux Nightingale frôlent la syncope. Leur fille infirmière ? Jamais ! Ce serait un déshonneur. Car à l'époque, hormis les religieuses, les femmes qui embrassent cette carrière sont très mal considérées. Seuls les pauvres se rendent dans les établissements de l'assistance publique et celles qui les soignent sont perçues comme vulgaires et immorales. Alors hors de question que la jeune Florence revête le tablier des nurses. Elle trouvera un époux et, comme toutes les femmes de son rang, tiendra sa maison et se consacrera à l'éducation de ses futurs enfants. Évidemment, c'était sans compter sur l'obstination de la jeune femme qui ne compte certainement pas remettre en cause la promesse qu'elle a faite à Dieu. Puisqu'elle ne se laisse pas émouvoir une seule seconde par les prétendants qui se succèdent chez ses parents, ces derniers décident de lui changer les idées en l'envoyant parcourir l'Europe plusieurs mois durant. Mais où qu'elle se rende, Florence fait face à son destin. En 1850, alors qu'elle se trouve sur les bords du Rhin, Florence Nightingale, qui a désormais 30 ans, visite l'institution des diaconesses de Kaiserswerth. C'est l'endroit rêvé pour se former puisqu'un pasteur nommé Fliedner y enseigne les travaux d'hôpitaux. Cette fois-ci, les parents capitulent. Quelques mois plus tard, Florence prend la direction des infirmières à l'hôpital de King's College de Londres. Au même moment, sur les rives de la mer Noire, les premiers coups de canon se font entendre. En pleine guerre de Crimée, durant laquelle elle s'occupe des blessés issus des rangs britanniques, Florence Nightingale est frappée par le manque de considération apporté aux malades et la surmortalité qui règne dans les murs de l'hôpital. Grâce à son instruction parfaite et une appétence toute particulière pour les mathématiques, elle commence à regrouper des milliers de données statistiques. Chiffres à l'appui, Nightingale présente bientôt ses recommandations pour améliorer la qualité des soins et l'accueil réservé aux malades. Mais la révolution sanitaire qu'elle entend bien mener ne s'arrête pas là. Elle continue le 9 juillet 1860 dans une aile spéciale de l'hôpital St. Thomas, non loin du London Bridge. Ce jour-là, 15 jeunes femmes entament la formation d'un an que leur offrira la flambant neuve Nightingale Training School for Nurses, la première école d'infirmières jamais ouverte en Angleterre. Au programme, elles apprennent à panser les plaies, à prendre la température, à empêcher les escarres. Elles reçoivent une formation pour assister les chirurgiens, faire la cuisine pour les malades, nettoyer les dispensaires, aérer et chauffer les pièces ou faire des comptes rendus aux médecins. En somme, ici, pas le temps de s'amuser. D'autant que Nightingale est plutôt du genre sévère. Elle exige de ses élèves ponctualité, tranquillité et surtout netteté personnelle. Bientôt, les demandes d'inscription affluent des quatre coins du pays et tous les hôpitaux s'arrachent les infirmières issues de la formation Nightingale. Alors que 10 ans plus tôt, le travail d'infirmière était considéré comme une besogne dégradante, la figure de la nurse apparaît désormais comme indispensable à l'équilibre du système de santé. Mais alors que son école rencontre un vif succès, la santé de Florence Nightingale décline. Son cœur s'emballe et la voilà qui s'évanouit régulièrement. Des douleurs physiques la font continuellement souffrir, si bien que l'infirmière doit garder le lit. Mais même affaiblie, Florence Nightingale veille au grain. Tous les jours, elle continue de noircir des milliers de pages et encourage des réformes de santé. Elle esquisse même un code sanitaire pour l'Inde et se voit consultée pendant la guerre de sécession qui déchire les États-Unis d'Amérique. À plusieurs reprises, elle rédige son testament, se croyant condamnée. Mais c'est finalement à l'âge respectable de 90 ans que Florence Nightingale, la dame à la lampe, s'éteint paisiblement après avoir réformé le métier d'infirmière et le domaine du soin.
Europe 1, historiquement vôtre.
Et pour mieux connaître encore Florence Nightingale, nous sommes avec le journaliste Philippe Dullet. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Bonjour Philippe Dullet, vous êtes journaliste. Vous avez récemment publié un très beau livre intitulé « Infirmière, histoire et combat » aux éditions de La Martinière. Dans le chapitre que vous consacrez à Florence Nightingale, vous parlez du Florence Nightingale Effect. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qu'est cet effet ou ce syndrome ?
Alors, ce n'est pas un syndrome officiellement reconnu. C'est simplement le symbole de l'engagement total qu'avait apporté Nightingale à ses malades. Plus que de la compassion, de l'affection, 24 heures sur 24, vous avez raison, elle a inventé ce thème incroyable qui est la dame à la lampe. C'est-à-dire, toute la nuit, elle passe dans ses malades avec sa lampe, sa bougie, pour voir comment ils vont. Donc, c'est cette espèce de transfert, si je puis dire, avec ses malades, cette affection avec ses malades, qui deviendra ce syndrome, etc. Et donc, s'empareront toutes les séries, à commencer par les séries bavaroises, comme la clinique de la Forêt-Loire, avec des tas de bluettes entre patients, soignants, soignés, etc.
Il n'y a pas de relation amoureuse entre Florence Nightingale et ses patients. D'ailleurs, on ne lui connaît aucune aventure amoureuse à Florence.
Voilà, alors je n'étais pas là par principe, mais évidemment, officiellement, non. Et pourtant, elle a été courtisée par les plus grands hommes d'Angleterre et de la Terre, des scientifiques, des politiques. La fille se mariait plusieurs fois. Ça n'a jamais abouti, elle a toujours repoussé les mariages, alors qu'elle a eu des relations très étroites avec le secrétaire de la guerre, avec des politiciens, des poètes, des professeurs d'université. Et effectivement, elle mourra toute seule à 90 ans, mais pas tout à fait toute seule.
C'est-à-dire pas tout à fait toute seule?
Eh ben, c'est d'ailleurs avec toutes ses écoles, ses infirmières, tout ce qu'elle a laissé derrière elle.
Oui. Ah, voilà. Oui, d'accord, dans ce sens-là.
Elle avait formé tellement d'infirmières.
J'espérais un truc croustillant jusqu'au bout, moi.
C'est comme vous, par exemple, vous serez entouré de tous les auditeurs.
Ils sont 12. Alors, Stéphane l'a raconté, Florence Nightingale s'est battue corps et âme pour exercer cette profession qui était très mal considérée. On a du mal à comprendre aujourd'hui pourquoi la bonne société méprisait tant les infirmières.
Parce que c'était à l'époque, et il a fallu beaucoup de temps pour que ça change, un métier vil, sans doute à l'image de la réputation des filles à soldats, héritières des légionnaires romains, qui accompagnait les guerres, etc. Charles Dickens, en pleine époque Nightingale, écrit ces phrases incroyables. Les infirmières sont ignorantes, vulgaires, négligées, alcooliques, voleuses, et il y a des points de suspension, hein, donc il y a beaucoup de choses comme ça.
D'accord, on partait de loin.
En fait, ce qu'on découvre en esquisse, c'est que Florence Nightingale a inventé un métier et elle a réformé complètement cette profession qui était mal considérée de nurses.
Oui, elle a inventé quasiment le centre de formation, le centre universitaire, elle met des grades, elle fait des écoles. Il y a tout un règlement pour rentrer dans les écoles Nightingale, c'est un coût, ça dure 3 ans, ça vaut 15 livres, un agneau vaut 5 livres à l'époque, pour une idée. Et après, il y a tout un règlement, on devient sister ou nurse ou matrone. Voilà, donc c'est très très réglementé et c'est ce qui va tout à fait se répandre sur la planète et devenir les infirmières d'aujourd'hui.
Alors on va continuer à parler de nos personnages qui ont ouvert une école et de Florence Nightingale en particulier avec notre invité, le journaliste Philippe Dulay sur Europe 1. À tout de suite.
16h-18h sur Europe 1.
Historiquement vôtre.
Sur Europe 1,
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
C'est la rentrée, alors on s'intéresse aujourd'hui à ces personnages de l'histoire qui ont ouvert une école. On parle de Florence Nightingale, pionnière des infirmières, avec notre invité Philippe Dulay. Philippe, vous l'écrivez dans votre livre, Infirmière, Histoire et Combat. Florence Nightingale voulait que les femmes s'affirment, qu'elles soient actrices de leur vie. Ça fait d'elle clairement une féministe d'avant-garde.
Ah oui, très très jeune, elle est très féministe des 17 ans et même avant. Elle écrivait à un moment, la femme est en porte-à-faux, elle est formée à l'acquisition des connaissances, mais pas à l'action. Donc elle passera toute sa vie à militer, à se revendiquer. Féministe, elle lutte contre l'abolition de la prostitution, pour l'abolition de la prostitution, etc. Et toute sa vie, elle va être une militante. C'est une sacrée bonne femme. Hein. J'avoue que j'attends le film qui la consacrera à Hollywood ou ailleurs, mais elle tient aussi de son grand-père William Smith, qui était un profondeur de l'esclavage. Donc, il y a une tradition chez elle de combat, etc. Mais c'est vraiment une féministe avant l'heure.
Mmh. Mais pourtant, certains diront que Florence Nightingale n'a fait qu'enfermer davantage les jeunes femmes dans ce domaine du soin, où elles étaient déjà condamnées, en quelque sorte, en tant qu'épouse et mère. D'ailleurs, près de 90% des représentants de la profession sont aujourd'hui des femmes. Il y a très peu d'infirmiers, il y a surtout des infirmières.
C'est très vrai. Mais là, je vous rassure, Stéphane, elle n'a enfermé personne. Hein. Mais entre soigner un bobo chez un enfant et apporter la tisane à la grand-mère dans son lit, il n'y a rien à voir. C'est-à-dire que l'infirmière Nightingale, elle fréquente les médecins, elle soutient le malade, elle connaît les maladies, les pathologies, etc. Avec ce principe très tôt, au médecin la maladie, à l'infirmière le patient. Et c'est vraiment l'affirmation d'une profession. Et elle est féminine, ces professions, très tôt, toujours. Je pense, moi, que c'est de la faute des encyclopédistes qui écrivait il y a très très longtemps, on ne peut nier que les femmes soient plus propres à ces fonctions que les hommes, par leur sensibilité, la douceur naturelle de leur sexe, etc., plus capables qu'eux de ces soins touchants, etc. Donc il y a eu une image de la femme, et effectivement l'infirmière aujourd'hui c'est une femme, à 90%, et ça le restera sans doute très longtemps.
Grâce à son école, Florence Nightingale a complètement réformé les soins infirmiers, mais comment son action a été perçue à son époque? C'est plutôt rare pour une femme d'encourager des réformes comme elle l'a fait.
Mais je pense que c'est une grosse battante, je vous l'ai dit, quoi, elle essaie de convaincre d'abord sa famille qui veut pas en entendre parler, et puis après les politiques, elle est finalement envoyée en Crimée, où là elle va convaincre les gens sur le terrain, c'est-à-dire comme c'est une femme d'action, les chiffres parlent pour elle, alors c'est aussi une grosse matheuse, et elle arrive avec des statistiques en rentrant de la guerre de Crimée, où il y avait 60% de morts quand elle y arrive, il y en a 2% quand elle revient. Donc du coup la gloire la submerge à Londres, elle est reconnue, comme vous l'avez très bien dit, elle va boire le thé avec la reine Victoria, elle est publiée, et on voudra même l'enterrer à Westminster Abbey, ce qu'elle refusera. Voilà, donc elle va renverser complètement l'image de l'infirmière dans la société mondiale.
Dans votre livre, Fibulé, vous retracez l'histoire de cette profession depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. De quand datent les premières références au métier d'infirmier ou d'infirmière?
De l'Antiquité, l'infirmier est d'abord un esclave à l'époque, il suit les armées et les légions que je vous lisais. Le mot infirmier apparaît vraiment en 1398, donc extrêmement tôt, juste avant la Renaissance, et il signifie faible, infirmus. Et l'infirmerie, c'est là où on met les gens un peu démunis. Et l'infirmier, naturellement, est celui qui va s'occuper de ces indigents. Donc depuis tout le temps, l'infirmier accompagne les malades dans l'histoire du monde.
Vous avez recueilli, je crois, le témoignage de plusieurs infirmières et infirmiers. Qu'est-ce qui est ressorti de ces échanges?
Alors, toutes la même passion du métier et cette espèce de vocation qui les prend très tôt. Vous savez, c'est un syndrome. J'avais 14 ans quand, surtout pas la pas du gain, ni évidemment l'histoire de salaire. Quand on parle avec les infirmières, elles disent la seule chose qui nous intéresse, c'est mieux faire notre travail, de meilleures conditions de travail, et c'est ça qui les intéresse. Mmh.
Ce livre, au fond, c'est un hommage rendu aux infirmières d'hier et d'aujourd'hui. Vous les présentez d'ailleurs comme les super-héros de notre époque. Est-ce que, d'ailleurs, la crise sanitaire qu'on est en train de traverser, l'a montré, en tout cas au début du premier confinement, c'était un peu les héros de notre temps. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on en a pris conscience un peu tardivement, nous ?
Oui, très tardivement. Dans les sondages d'opinion, de tout temps, les infirmières sont plébiscitées. 99% des Français trouvent que c'est le métier le plus formidable. Avant journaliste et animateur d'Europe 1, c'est vous dire. Donc, le problème, c'est qu'ils ont toujours été maltraités au niveau salarial. Ils sont même pas dans le top 15 des infirmières les mieux payées du monde. Et ils ont inventé en 88 une expression ni bonne, ni non, ni conne, ce qui en dit long. Et aujourd'hui, elles s'estiment payées en applaudissements. Elles l'ont été. Un peu délaissées aujourd'hui avec cette formule pendant la pandémie, on était des héros, on redevient des coups, c'est OUT. Son problème, l'infirmière, c'est quand elle fait grève, c'est marqué sur sa blouse, mais elle travaille. Il y a des malades qui gémissent et la mort est en face d'elle. Donc effectivement, elles sont toujours cette espèce d'amertume, encore aujourd'hui, malgré cette période un peu bénie pour elles, si je puis dire, mais c'était épuisé mentalement et physiquement, de la pandémie et du début du confinement.
En tout cas, merci beaucoup Philippe Dulay de nous avoir éclairé sur Florence Nightingale. Je rappelle le titre de votre livre, Infirmières, histoires et combats, paru aux éditions de La Martinière, et on précise que pour chaque exemplaire acheté, 1 euro est reversé à la Fondation Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France. Merci beaucoup et bravo Philippe.
Oui, merci à vous.
Ici Europe 1.
16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Tous les jours des 16h, Historiquement vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Et elle nous raconte des histoires que l'on n'apprend pas à l'école, même à l'école Montessori. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Aujourd'hui, Clémentine, vous nous racontez le destin d'Arnold Sommerfeld, un génie méconnu.
En effet, vous le savez, messieurs, naturellement, dans certains domaines bien particuliers, la chimie, la physique, la littérature, la médecine et la paix, le prix Nobel est la récompense la plus prestigieuse qui se puisse décerner. Et depuis 1901, il y a eu à peu près, même tout à fait précisément, 590 prix Nobel. Et d'ailleurs, je vous signale que le 10 décembre prochain, il faudra peut-être qu'on fasse quelque chose parce que ce sera le 120e anniversaire de la remise du premier prix Nobel. Et alors ça rejoint votre sujet d'ailleurs, Stéphane, parce que parmi les premiers, le premier titulaire du prix Nobel de la paix, c'était Henri Dunant, fondateur de la Croix-Rouge en 1901. Alors, il y a certains candidats qui sont nommés plus d'une fois, naturellement, mais Arnold Johannes Wilhelm Sommerfeld, lui, n'a jamais obtenu le prix Nobel alors qu'il a été présenté. Allez, dites un nombre pour voir, messieurs. Lancez-vous.
28 fois.
Oui.
Puis-je me permettre une incise, oui, chère Clémentine? Jamais on ne présente des gens. Il n'y a pas de candidat.
Oui. Alors c'est
officiel.
Des équipes qui sont sélectionnées ou des individus qui sont sélectionnés.
Parce qu'il n'y a pas de présélection. Vous voyez ce que je veux dire?
Il n'y a pas de présélection, mais enfin il y a quand même. Si vous voulez, moi j'ai jamais été pressenti pour le prix Nobel de physique. Allez savoir pourquoi. Hein. Oui. Ben, quand même. Bon. Alors c'est bien étrange. Oui. Pourtant ma grand-mère était agrégée de physique à une époque où il y en avait 10 par an.
Oui.
Donc malheureusement,
je rappelle, le prix Nobel n'est pas héréditaire.
Alors bref, combien de fois? Dites un chiffre. Mon voisin de gauche a dit 28. Et vous?
50.
84 fois. Voilà, son nom a été cité 84 fois pour le prix Nobel. Alors, qui était ce Arnold Sommerfeld? Il est né en Prusse orientale en 1868 et dès l'âge de 23 ans, doctorant en mathématiques et sciences physiques à l'université de Königsberg. 23 ans. Hein. Il ne fait pas que des maths et de la physique. Sommerfeld, c'est un petit peu un agité un peu. Il aime la castagne. Il se bat souvent en duel en état d'ébriété. Vous savez, il y a une grande tradition allemande dans les universités allemandes. On se bat au sabre. Alors, ce qui fait que Sommerfeld avait une grande estafilade sur le visage qu'il a gardé toute sa vie. Il fait une ascension fulgurante dans le domaine de la physique. Alors, déjà, licence d'enseignement des maths à haut niveau en 1895 et tout ça. Il a la trentaine. Hein. Il est nommé à la chaire du département de mathématiques dans une ville de Basse-Saxe en Allemagne. Il devient rédacteur en chef de l'Encyclopédie der Mathematischen Wissenschaften, c'est-à-dire une encyclopédie mathématique allemande jusqu'en 1926. Vous voyez, ce pédigré degré extraordinaire. Ensuite, il accepte la chaire de mécanique appliquée à Aix-la-Chapelle. Et là, il élabore la théorie de l'hydrodynamique. Bon, 1906, il est directeur de l'Institut de physique théorique de l'Université de Munich. Et c'est un véritable pionnier dans le développement de la physique atomique et quantique. Voilà, c'est quand même, avouer que là, c'était quand même bien parti pour un prix Nobel. Mmh. Au cours de sa carrière de professeur à Munich, il va encadrer 4 doctorants et 2 post-doctorants qui tous vont obtenir le prix Nobel de physique et de chimie. Werner Heisenberg, son élève à Munich, prix Nobel de physique en 32 pour la création de la mécanique quantique. Peter Debye, prix Nobel en 36, prix Nobel de chimie pour ses contributions à l'étude de la structure moléculaire. Wolfgang Pauli, prix Nobel de physique 45 pour sa découverte du principe d'exclusion de Pauli. Ne me demandez pas de quoi il s'agit. Hans Bethe, lauréat du prix Nobel de physique en 67 pour sa théorie de la nucléosynthèse. Stellaire, c'est beau, hein. Qu'est-ce que c'est? Je l'ignore. Alors, bon, il a eu des élèves absolument prodigieux.
Oui, mais tout le prestige lui en revient. Quelle chance pour lui.
Oui, sauf que vous, ni vous, ni moi, ni Mathieu ne connaît son nom.
Non, mais il a dû Stéphane. Être très content que ses élèves de son vivant réussissent.
C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. Et alors, il y en a vraiment une quinzaine ultra connues qui, on a pu parler d'une école Sommerfeld parce que tous ces gars-là en sortaient. Et Albert Einstein lui-même lui déclara un jour, ce que j'admire particulièrement chez vous, c'est que vous avez extrait du sol un si grand nombre de jeunes talents. Oui, parce que le talent de Sommerfeld, c'était notamment de savoir identifier chez des esprits indisciplinés et créatifs le potentiel et de leur donner la discipline nécessaire pour effectuer des recherches fructueuses. Donc il a fait avancer Sommerfeld la science dans de nombreux domaines et du coup entre 1917 et 1951 son nom a été proposé 84 fois mais n'a jamais été retenu. En 51 à l'âge de 82 ans, Sommerfeld est renversé par un camion alors qu'il traversait la rue et il décède 2 mois plus tard. C'est un peu l'histoire de Pierre Curie, dites donc. Hein. Ouais. Alors bien qu'il n'ait jamais remporté le prix Nobel lui-même, on peut dire qu'il l'a remporté de nombreuses fois grâce à ceux auxquels il a enseigné et pour qui il fut une aide et une source d'inspiration. Et d'ailleurs, en effet, à la fin de sa vie, il déclarait que c'était sa reconnaissance en tant que professeur qui le touchait le plus et c'est pourquoi aujourd'hui encore, dans les milieux scientifiques, on a tendance à dire que Planck était l'autorité, Einstein le génie et Sommerfeld le professeur, un homme donc qui fit école en restant dans l'ombre. Prenez-en de la graine, les gars.
Vous, c'est trop tard pour Stéphane.
C'est trop tard pour la physique, en tout cas.
Pour la physique, c'est trop tard. Ça ne marche pas.
C'est très nul. Vous étiez bon en...
Ah, j'étais une bille monumentale. Ah, oui. Tu sais que mes parents, ils voulaient absolument que je sois dans la filière S, là. Donc, j'ai galéré. J'ai jamais autant bossé que pour le bac S, là. J'ai eu 12 en physique. J'étais nul. C'était très compliqué. C'est une autre histoire. Il y a une séquence de cette émission à laquelle je ne participe pas. C'est moi qui pose les questions. C'est moi le professeur. Ça s'appelle le quiz. Restez avec nous.
16h, 18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
C'est l'heure du quiz, ce moment tant redouté par Stéphane, qui s'avance vers le micro avec dans le regard la même conviction invincible, la même assurance que Mbappé au moment de tirer le dernier pénalty contre la Suisse. Il faut dire qu'il a pu gagner depuis
la chute des Mérovingiens.
Non, c'est évidemment un son sorti de son contexte, il faisait référence à son dernier orgasme. Jouons à Bern to be alive. Stéphane, première question, elle est pour vous. Croire à l'histoire officielle, c'est croire des criminels sur parole. Ces mots sont de Simone Veil, non pas l'ancienne ministre de la Santé, mais la philosophe humaniste du début du XXe siècle. Agrégée de l'École normale supérieure, elle décide de travailler 1 an à l'usine Renault pour confronter sa pensée au réel. Voici la question. Précoce, son frère de 8 ans, pour faire plaisir à leur père, apprend à lire à sa sœur Simone alors qu'elle en avait 5. Vrai ou faux?
Je crois que c'est vrai.
Je crois que c'est vrai
parce que...
Ou elle l'a pris toute seule, sinon.
Alors maintenant, est-ce que c'est son frère? Oui, ça c'est. Il peut y avoir un piège. Mais l'histoire de l'usine, ça je le savais.
Ouais, c'est con, c'est pas la question.
Ouais, mais je crois qu'elle a appris à lire très tôt. Elle était extrêmement précoce. Je veux dire vrai.
Vrai.
5 ans, ça me paraît même tard.
Vous avez gagné.
5 ans, ça paraît même tard. Chez vous, il y a quand même des critères pour les enfants. Ça n'a pas dû être simple pour vos enfants, Clémentine. Elle devient militante très très jeune. Effectivement, elle refuse à 6 ans de manger du sucre quand elle apprend que dans les tranchées, les soldats en sont privés. En 1943, l'année de sa disparition, elle écrit « L'expansion capitaliste n'est plus loin du moment où elle se heurtera aux limites même de la surface de la Terre. » Prophétique. Question numéro 2 pour vous, Clémentine Portier-Kaltenbach. Reste-t-on en compagnie féminine. Dans l'ancienne Sparte, la loi disait que les femmes qui mouraient en accouchant avaient le droit à un petit orchestre pendant l'enterrement. Vrai ou faux ?
Voilà une étrange question.
Étrange coutume.
Non, je ne vois pas pourquoi. Et ça me paraît pas du tout dans l'esprit spartiate d'agrémenter des funérailles de musique. Je pense qu'au contraire, si ça se trouve, on les balançait du haut du mont Paty Payon, ça c'est à Olympie. Je pense pas que Sparte ait pu faire un sort si doux à des femmes qui avaient le culot de mourir en accouchant. Je réponds non.
Vous avez...
Ce raisonnement affreux aboutit à une bonne réponse. Vous avez raison, c'est exactement ça. Elles avaient le droit, en revanche, de mettre leur nom sur leur sépulture, un privilège donné également aux soldats morts au combat. Grand privilège, l'histoire ne dit pas qu'on avait le droit quand on était tué au combat en accouchant. Question numéro 3 pour vous, Stéphane. Restons avec les femmes spartiates de la Grèce antique. On est si bien avec elles. Vous connaissez bien, en plus. Un domaine que vous connaissez bien.
Vous préférez le bataillon sacré, je le sens. Hein.
Elles ont toujours été encouragées à avoir beaucoup d'enfants pour grossir les rangs de l'armée. Ça, vous le savez. Ainsi, il n'était pas rare que s'il en était de constitution chétive, on prêtait sa femme pour qu'elle s'accouple avec des hommes forts pour donner naissance à de futurs puissants guerriers. Vrai ou faux? Ça, c'est vrai. On prêtait sa femme si on était un petit peu impuissant, un petit peu mou du genou.
Il fallait, ce qui comptait, c'était la collectivité, vous voyez. C'est pas le plaisir personnel, c'est pas ma femme, vous voyez. Comme aujourd'hui, on est très attaché à ça.
C'est une époque où on avait le sens du partage.
C'est bizarre, hein, quand même, d'être attaché à son conjoint. Ça, c'est quand même une drôle d'idée.
Votre mari vous prête bien à nous.
Hein, c'est vrai.
Oui, mais pas dans le sens dont vous parlez.
Pas dans le sens spartiate du terme.
Donc vous êtes sûr de votre réponse?
Non, je ne suis pas sûr, évidemment. Mais comment voulez-vous qu'on soit sûr?
Moi, ça me paraît quand même curieux, parce que
le doute s'instille.
Le principe de la génération, encore que les Spartiates étaient quand même
ils étaient
timbrés.
Bien timbrés, quand même. Enfin, c'est le cas de dire, les Spartiates. Et donc, je pense que eux, ce qui comptait, c'est la collectivité. C'était d'abord l'armée, faire une armée forte. Donc, peu importe.
Qui couchait avec qui, finalement, et d'où venaient les enfants.
Voilà.
Moi, je suis circonspect sur cette. Vraiment.
Mais écoutez, je vais le tenter.
L'enjeu
n'est pas énorme non plus.
L'enjeu est énorme, c'est votre réputation qui est en jeu.
Non, ça fait longtemps qu'elle est prête.
Vous dites vrai.
Vous avez gagné.
Et c'est une bonne réponse, Stéphane. Ainsi, la polyandrie ou la polygamie était une pratique courante chez les Spartiates. Le but était d'avoir un nombre de grossesses poussé au maximum. On pouvait également constater un régime matriarcal tellement les hommes étaient tout le temps sur le front de la guerre. Question numéro 4 pour vous, Clémentine. 25 janvier 1947, à Miami Beach, Al Capone meurt d'un arrêt cardiaque. Ce fut le gangster le plus connu du XXe siècle. Ses petits-enfants voulaient organiser une vente aux enchères de biens ayant appartenu à celui qu'on avait surnommé Scarface. Problème, sur un pistolet, il y avait du sang d'une de ses anciennes victimes. La famille de cette dernière a réussi à empêcher l'événement. Vrai ou faux?
T'es sympathique comme... La vente aux enchères des biens d'Al Capone avec un...
Vous qui collectionnez les objets.
Avec un pistolet. Ouais, mais c'est un peu morbide quand même, le pistolet sanguinolent.
Ou alors tous les trucs de Napoléon, c'est vrai que c'est rarement
réglé. Je pense, je verrais bien l'idée de la vente aux enchères des objets d'Al Capone. Là, je trouve que ça tient la route. Ouais. L'idée du pistolet sanglant tient la route aussi. L'idée de la famille qui empêche la vente aux enchères me paraît vraiment plus bizarre. Donc je réponds non.
Vous avez...
Très franchement, mon rôle dans ce quiz est de vous amuser, mais parfois je suis stupéfait par la qualité du raisonnement quand même de Clémentine. Parce que là, je ne sais pas ce que j'aurais répondu à ce truc-là, mais analyser tout ce que vous avez dit est juste. En fait, j'ai rien à rajouter. Effectivement, la vente aux enchères a bien eu lieu. Des montres, des bijoux, des colts seront en vente. Sa veuve Maë avait tout laissé à leur fils unique, Sonny. Ce dernier a eu deux enfants. Les organisateurs de la vente, Diane et Barbara Capone, on les embrasse, évidemment. C'est de partout.
On aimerait bien savoir ce qu'ils font dans la vie, ceux-là.
Ils n'ont pas besoin de faire grand-chose. ils ont gardé le magot. Question numéro 5, c'est la question de rapidité. On a, la saison dernière, évoqué ici l'abbé Dubois. Récemment. Clémentine lui avait fait son portrait. Vous pouvez réécouter, la chronique s'appelle l'abbé Dubois, le débauché. Et pour cause, l'ecclésiastique qui a joué un rôle central dans la régence de Philippe d'Orléans était un sacré gourgandin. On peut dire. Il est mort en 1723, inhumé à Paris dans l'église de la collégiale Saint-Honoré. À la Révolution, sa tombe est profanée. Qu'est-ce qui a été construit par la suite à l'emplacement de l'ex-chapelle quand l'église a été détruite ? Trois propositions. Une maison de tolérance, un collège de jeunes filles au nom de l'abbé ou un magasin d'instruments à vent.
Trois. Oui, c'est ce que j'aurais dit aussi.
Je vous donne l'opportunité d'une autre réponse. Une maison de tolérance. Un bordel, un claque. Oui.
Génial.
Oui, la source, Dictionnaire des rues de Paris aux éditions de Minuit. L'église a été démolie en 1792. C'était dans la rue Saint-Honoré. Et dans l'ex-cour du cloître, une maison close a été établie à l'emplacement de l'ex-chapelle vierge de l'église et utilisa comme fosse d'aisance le caveau où le cardinal Dubois
avait été inhumé. Mais oui, je connaissais cette histoire. Mais,
oui, vous avez écrit ça, le Trivial Poursuite spécial
Paris.
C'est
la justice immanente, c'est beau, ça, c'est un signe de Dieu qui aime bien se moquer de sa créature.
Elle a oublié son propre livre. Stéphane Bern remporte ce quiz. Vous devez être fier de vous, Stéphane.
Non,
c'est pas tous les jours. Traction pour
non,
votre famille,
je suis très content. Mais j'étais impressionné par le raisonnement de Clémentine. Vous savez, Clémentine est très fort. D'ailleurs,
quel flagorneur.
Mais c'est pas vraiment. On vous a fait venir dans cette émission, c'est pas pour rien non plus.
Ça, c'est du compliment.
Mais oui, mais c'est vrai, c'est la meilleure.
C'est la meilleure.
Ah, oh, ça, c'est bien. Parole douce à mes oreilles vieillissantes.
Europe 1. 16h, 18h. Historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Vous avez vu Montessori, Stéphane ?
Non, j'ai vu monter personne.
Voilà, l'humour, on l'a ou on l'a pas. Si elle non plus n'était pas très drôle à première vue, elle a développé une drôle de méthode d'éducation pédagogique qui a séduit des millions de parents et d'enfants dans le monde entier. Stéphane Bern retourne sur les bancs de l'école où il est autorisé à lancer des boulettes de papier. Il nous raconte Maria Montessori.
Nous voilà à Rome, dans le quartier populaire de San Lorenzo, à deux pas de la gare centrale. En ce 6 janvier 1907, c'est une rentrée des classes un peu spéciale qui attend une quarantaine d'enfants de 3 à 9 ans, rassemblés au rez-de-chaussée d'un bâtiment flambant neuf. Dans l'encadrure de la porte, une femme au chignon haut et à la toilette élégante les fait entrer calmement. C'est la dottoressa Maria Montessori qui inaugure là sa première école, la Casa dei Bambini, la maison des enfants. Quelques mois plus tôt, le maire de Rome a fait appel à elle pour lui demander de prendre en charge les gamins négligés de ce quartier malfamé. Avec eux, elle doit mettre en application sa pédagogie fondée sur la curiosité, l'autonomie et la coopération. Montessori a tout prévu. Elle a fait fabriquer des tables et des chaises à la taille des petits et disposé ici et là des cubes, bouliers et autres jouets. Dans son équipe, il n'y a aucun professeur confirmé, seulement des jeunes femmes convaincues par sa méthode. Mais ce premier jour d'école tourne au fiasco. Les bambins hurlent et n'en font qu'à leur tête, qu'importe. Maria le sait bien, la patience est la mère de toutes les vertus. Quelques jours plus tard, les petits des rues ont la mine joyeuse et se laissent absorber par toutes sortes d'activités manuelles qu'ils choisissent eux-mêmes. Les sceptiques, qui se moquaient du projet pédagogique du docteur Montessori, sont bien obligés d'admettre que ces rejetons que l'on croyait perdus savent finalement faire quelque chose de leurs 10 doigts. Malgré les railleries, la psychiatre, elle, n'a jamais douté des capacités des enfants. Des commentaires dégradants, elle en a essuyé beaucoup. 11 ans avant l'ouverture de sa toute première école, alors qu'elle est âgée de 26 ans, Maria Montessori est la première femme diplômée de médecine en Italie, avec la note honorable de 105 sur 110, qui plus est. Mais pour obtenir ce précieux sésame, cela n'a pas été de tout repos. Il lui a fallu batailler pour intégrer la prestigieuse université de la Sapienza, jusque-là réservée aux hommes. Dans les amphithéâtres remplis d'étudiants moustachus, les jupons fleuris de Maria suscitaient bien des moqueries. « Sifflez, sifflez !» leur répondait-elle. « Plus vous sifflerez, plus j'irai loin. » Et visiblement, ils ont beaucoup sifflé. Sa carrière en atteste. C'est à la clinique psychiatrique de l'Université de Rome que Maria Montessori dessine les prémices de ce qui deviendra sa méthode éducative. Là-bas, elle est horrifiée de constater que les enfants présentant une déficience mentale sont quasi livrés à eux-mêmes. Ils sont entassés dans une salle commune avec des adultes en camisole de force. Aucune distinction de pathologie n'est faite et les petits internés ne reçoivent presque aucun soin, rien qui puisse les stimuler pour les faire progresser.
Alors toutes les nuits jusqu'aux aurores, Maria se creuse les méninges pour révolutionner leur prise en charge. Car pour elle, tous les enfants sont capables d'apprendre, qu'ils présentent ou non un handicap mental. Mais les travaux novateurs du docteur Montessori sont interrompus par un événement qu'elle n'avait pas vu venir. À la clinique, Maria fait la connaissance de Giuseppe Montesano, un médecin charmant de 2 ans son aîné. L'entente est instantanée et le jeune homme accompagne bien vite Maria dans ses veillées nocturnes, si vous voyez ce que je veux dire.
Oui, pas besoin de me faire de dessin.
Sauf qu'après quelques semaines d'amour passionnel, Maria découvre qu'elle est enceinte. Si l'on apprend qu'elle est sur le point de mettre au monde un enfant conçu hors mariage, elle n'échappera pas au scandale. Sa réputation sera réduite en miettes. Pourtant, Maria n'épousera pas Montesano. Lui s'est laissé convaincre par sa mère qu'une femme médecin lui ferait de l'ombre. Alors, Maria cache ce ventre, de plus en plus visible. Et lorsqu'au printemps 1898, un fils qu'elle appelle Mario voit le jour, elle le confie à des paysans dans la campagne du Latium. Giuseppe, quant à lui, épouse une autre, brisant le pacte qu'il avait conclu avec Maria. Ébranlée par ce drame personnel, Maria Montessori apparaîtra désormais vêtue de noir. Son cœur est meurtri, mais sa volonté, elle, reste intacte. Maria Montessori consacre tout son temps à l'élaboration de sa méthode pédagogique. Sa révolution éducative est en marche. Elle va mener à bien la mission qu'elle s'est donnée, celle de protéger les enfants. Après l'ouverture de son école dans le quartier de San Lorenzo, Maria fait tomber la blouse blanche et renonce à l'exercice de la médecine. Le stéthoscope laisse définitivement place à la plume quand la pédagogue se plonge dans l'écriture de la méthode Montessori. Et dès sa parution, c'est un succès d'édition. Le livre se vend comme des petits pains, on le traduit même dans une 20aine de langues. Et Maria ne s'arrête pas là puisqu'elle fait aussi breveter le matériel pédagogique qu'elle a développé. De l'autre côté de l'Atlantique, les milieux progressistes américains sont charmés par les méthodes alternatives de cette rebelle italienne et la voilà qui s'embarque dans une tournée internationale. On la retrouve en décembre 1913 sur la scène mythique du Carnegie Hall à New York. Ce soir-là, la Montessori fait salle comble et séduit un public acquis à sa philosophie. Elle présente son laboratoire d'expérimentation, la petite école de San Lorenzo, et encourage l'ouverture de nouvelles structures. Petit à petit, les écoles Montessori éclosent aux quatre coins des États-Unis, puis en Espagne, en Italie. Aux côtés de Mario, ce fils né hors mariage qu'elle n'avait pas pu élever, Maria Montessori remue ciel et terre, persuadée qu'en faisant évoluer les méthodes éducatives, on pourra changer le monde en le peuplant d'adultes plus justes. Au professeur Montessori, elle apprend l'observation plutôt que le jugement. Et à tous les élèves qui évoluent dans ces écoles, elle apprend la confiance et l'indépendance. Maria Montessori s'éteint en 1952 à l'âge de 81 ans, après avoir consacré sa vie entière au bien-être des enfants. Près de 70 ans après, ces écoles, elles, se sont multipliées. On en compte plus de 35 000 dans le monde entier. Et elles continuent plus que jamais à accueillir des enfants par milliers chaque année.
Europe 1, historiquement vôtre.
Et Stéphane, pour continuer à parler de Maria Montessori, qui de mieux que la directrice de l'Institut supérieur Maria Montessori, Patricia Spinelli. Bonjour Patricia.
Bonjour Mathieu Noël.
Bonjour Patricia Spinelli, vous êtes la directrice de l'Institut supérieur Maria Montessori France, qui dispense des formations d'assistants et d'éducateurs Montessori. Est-ce que vous pourriez d'abord nous rappeler les oui. grands principes fondateurs de cette pédagogie ?
Oui, bien sûr. Ce qui a toujours intéressé Maria Montessori, finalement, c'est comment développer le potentiel humain. Je crois que ça a été sa question, c'est la question qui l'a taraudée. Et finalement, ce qu'on appelle aujourd'hui la pédagogie Montessori, c'est la réponse qu'elle nous a laissée en héritage. Comment développer le potentiel humain ? C'est-à-dire qu'elle a observé les enfants depuis ses études de psychiatrie. Hein, en psychiatrie, elle a commencé à observer les enfants et elle s'est aperçue qu'il fallait finalement construire un environnement qui répondait au plus près aux besoins des petits-enfants et que si cet environnement était à leur disposition, eh bien, ils y allaient tout seuls, ils se développaient. Et cet environnement pour les petits doit permettre le mouvement, le développement du langage, bien évidemment, le développement social, le développement sensoriel, et puis doit être porteur d'ordre. Parce que c'est l'ordre qui va leur permettre de s'organiser intérieurement et d'organiser leurs pensées.
Aujourd'hui, la méthode Montessori, bon, c'est complètement tendance, mais enfin, à l'époque, quand elle l'a créée, évidemment, il y a beaucoup de gens qui se moquent de ça. Il lui a fallu une force de caractère énorme pour imposer ses vues et ses convictions. Elle vient d'où, cette force de caractère, chez Maria Montessori?
Alors ça, c'est une question délicate, hein, et assez difficile à répondre. D'abord, je crois que c'est sa personnalité, déjà. Et je pense aussi que c'est son éducation. Maria Montessori est issue d'un milieu plutôt bourgeois. Hein. Son père était de famille traditionnelle, plutôt militaire. Mais sa mère était d'une famille de scientifiques, de chercheurs. Donc elle a été baignée très tôt dans un milieu de la recherche, dans un milieu éclairé et intellectuel. Et sa mère était une originale. Hein. Sa mère lui déchirait les livres de la leçon parce qu'elle trouvait que porter des cartables, déjà à l'époque, hein, au 19e siècle, porter des cartables, c'était une ineptie. Donc elle déchirait les pages du livre de la leçon du jour et elle lui donnait. Voyez. Et très tôt, Maria Montessori a été intéressée par les matières scientifiques. Maths, physique, chimie. Voyez. Et très tôt, elle est allée dans des écoles, lui, avec des garçons. Donc il lui a fallu une force de caractère très tôt dans sa vie. Qu'elle a développée et qu'elle a conservée tout au long de sa vie, parce que c'est vrai qu'elle s'est battue, c'est vrai que c'était une femme. Et à l'époque, je veux dire, si elle n'avait pas eu la force qu'elle a eue, et même dans ses écrits, ça transparaît encore, la force qu'elle a eue, bah, je crois qu'on n'en parlerait plus aujourd'hui.
Mais cela dit, elle n'était pas seule, parce qu'à l'époque, y a tout un mouvement qui se dessine pour développer une pédagogie alternative. C'est ce qu'on appelle le mouvement de l'éducation nouvelle. Quels étaient les représentants, les bases de ce mouvement et les différents représentants?
Alors, déjà, les différents représentants, ben, c'était Steiner, c'était De Croly, c'était Freinet en France, c'était Montessori, c'était Ferrière. Enfin, ça a été un courant international. Et je crois que l'idée, c'était déjà de développer une éducation et une pédagogie humaniste. Hein, c'est-à-dire où l'enfant, le respect de l'enfant, le respect de son développement était au cœur de l'action éducative. Et puis, c'était quand même sortir aussi l'éducation du système autoritaire dans lequel les sévices corporels étaient encore le quotidien, finalement. Donc, ils ont eu une action importante au début du XXe siècle. Et d'ailleurs, depuis cette époque-là, il n'y a pas vraiment grand-chose, à part l'OXI, à part quelques éducateurs ou quelques qui ont pointé comme ça, mais il n'y a pas eu grand-chose de nouveau.
Comment vous l'interprétez? Parce que vous dire, elle a trouvé la bonne formule. On peut pas inventer mieux comme type d'éducation. Ou vous pensez que c'est juste le hasard qu'on n'ait pas trouvé une autre méthode d'apprentissage?
D'abord, c'est pas une méthode d'apprentissage.
Non,
c'est une manière
de...
Montessori. C'est vraiment une vision de l'homme, une vision de son développement. Alors après, je pense qu'il y a actuellement, ou dans la deuxième partie du XXe siècle en tout cas, il y a des recherches qui se sont faites sur le développement de la pédagogie des adultes. Je pense à la garanderie, voyez, mais du côté des petits, beaucoup moins finalement. Voyez, on vit toujours sur les acquis de Freinet, de Croly, de Steiner, de Montessori.
Évidemment, j'ai fait le récit de la vie de Maria Montessori, mais il y a un élément, sa biographie, que je n'ai pas abordé, c'est le fait que dans les années 20, elle est sollicitée par le dictateur italien Mussolini, qui souhaite mettre sa popularité au service du régime fasciste. Il y est parvenu ou elle a refusé?
Alors, au début, non, elle n'a pas du tout refusé, c'est-à-dire qu'elle était plutôt très contente d'avoir l'appui de Mussolini. Mais il faut dire aussi que Mussolini, dans les années 20, il commençait son ascension. C'était pas non plus le dictateur qu'on a connu au moment de la Deuxième Guerre mondiale et après. Voyez. Et elle, ce qu'elle voulait finalement, c'était le développement de ses écoles. Donc lui, il lui a donné une aide à un moment donné, elle en a été très contente, il en a été très content, et puis à un moment, elle a réalisé qui il était. Et ça, c'est dans les années 30, 32, 33, où là, elle a fermé toutes ses écoles et où elle est partie.
Stéphane le disait, les méthodes pédagogiques de Maria Montessori ont d'abord trouvé écho aux États-Unis. À quel moment on a commencé à s'y intéresser en France?
Alors, je crois qu'en France, il y a eu très tôt quelques écoles Montessori qui se sont ouvertes avant la Première Guerre mondiale. Entre les deux guerres, il y a eu un premier essor qui est resté relativement timide. Vous voyez, il y avait peut-être une dizaine d'écoles en France. Mais le grand essor des écoles Montessori en France est après la Deuxième Guerre mondiale. Et surtout depuis 10 ans, depuis 10-15 ans.
C'est la folie.
Hein. Ah oui, ça le vend en poupe.
En tout cas,
merci Patricia Spinelli. Les auditeurs qui souhaitent découvrir un peu plus la méthode Montessori peuvent lire votre ouvrage « Un autre regard sur l'enfant ». paru chez Desclée de Brouwer, et La pédagogie Montessori pour les nuls.
Ah, ça, c'est pour moi.
Chez First Edition. Voilà, merci d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
16h, 18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Aujourd'hui, dans Historiquement vôtre, on évoque ces personnages de l'histoire qui ont créé une école. Après Florence Nightingale et Maria Montessori, vous nous brossez, Mathieu, le portrait, à 99% vrai, de celui qui est considéré par beaucoup comme le meilleur basketteur au monde, LeBron James.
Comment décrire LeBron James à quelqu'un qui ne s'intéresserait pas du tout au basket? LeBron James, Stéphane, est un individu de 2m6 et 113 kilos qui nous fait relativiser tous nos exploits, tout ce qu'on pense faire d'incroyable, en tout cas de pas mal, et qui, comparé à ce qu'il fait lui, est tout simplement pourri. Quand, par exemple, à la fin de sa chronique, David Castello-Lopez, persuadé d'avoir de beaux restes de ses années basket, fait une boule avec son papier et la lance d'un geste sûr vers la poubelle située à 60 cm de son bras, et que vous vous exclamez
« Incroyable ! Ça alors, je n'en reviens pas !»
LeBron, lui, il aurait fait pareil, mais en étant situé à l'autre bout du couloir, au niveau du bureau de Philippe Vandel, et il l'aurait fait les yeux fermés. Car LeBron James est, comme il le revendique depuis toujours, bien plus qu'un athlète. Il est celui qu'on a appelé dans ses années lycée « The Chosen One ». L'élu. Et c'est ça qui est le plus impressionnant chez lui. Quand t'as 15 ans, en pleine poussée hormonale, on t'explique que tu es l'élu, que tu es le nouveau Michael Jordan, normalement les plombs sautent et tu te tues à 17 ans avec ta première Lamborghini achetée grâce au contrat que Nike t'a déjà signé avant même que tu passes pro. Mais non, car vous allez voir, LeBron, c'est un physique mais c'est aussi un mental. Son coach actuel aux Los Angeles Lakers, Frank Vogel, résume les choses ainsi, Stéphane. LeBron James est le plus grand joueur que l'univers ait jamais connu. Au soir de leur victoire en championnat l'année dernière, il lui a dit « Tu es unique, dès comme toi, il y en a un tous les 50 ans. »
Bob Sinclair m'a dit la même chose.
Oui, mais il était bourré, David, ça n'a rien à voir. LeBron James n'est pas stupéfiant parce qu'il est devenu le meilleur joueur de basket du monde. Non, il est stupéfiant parce qu'il est devenu exactement ce qu'on prédisait qu'il deviendrait. Et nous allons voir qu'il n'y a pas que sur le terrain qu'il est un modèle pour les jeunes. Contrairement à beaucoup de stars qui mènent une vie privée dissolue, enchaînant les conquêtes, les coups d'un soir et les amours tarifés avec des prostituées haut de gamme...
Ça y est, t'as mis où ma petite culotte ?
LeBron, lui, est resté fidèle à son amour de lycée. Oui, sur son Instagram, pas de selfie bling bling devant des grosses cylindrées, mais des photos de famille avec ses adorables bambins qui bouffent des gaufres au petit-déj. Profil Instagram qui compte la bagatelle de 96 millions de fans. Ah oui, ok, il est gentil, mais alors en quoi LeBron est-il more than an athlete ? Eh bien, en 2018, sur ses deniers perso et sans faire appel à un quelconque partenariat, il décide de financer de A à Z son école. Alors non, c'est pas l'esprit du tout. LeBron n'est pas là pour rigoler. C'est pas une école privée select pour Happy Few, c'est une école publique destinée à donner une chance aux plus défavorisés. Une école située dans la ville natale de LeBron, Akron, dans l'Ohio. Je ne sais pas si vous connaissez un peu l'Ohio, Stéphane.
Horrible, c'est horrible.
Disons en tout cas que c'est pas folichon et que vous n'auriez pas envie de faire votre garden party annuel là-bas. Akron, Ohio, est en effet une des villes les plus pauvres des États-Unis. C'est là qu'a grandi LeBron. Une enfance d'une tristesse qui confine aux clichés. Il voit le jour le 30 décembre 84. Sa mère, Gloria, a à peine 16 ans. Il grandit sans père, ce salaud s'est encassé en laissant à sa mère ce mot laconique.
Je pense, dans l'ensemble, que ça va bien se passer.
Pauvreté, violence, drogue, l'enfance de LeBron ressemble à un reportage de Bernard de la Villardière. En CM1, n'ayant même plus de quoi se payer le ticket de bus, il manque 80 jours de classe. En devenant plus tard un géant de la NBA, engrangeant des centaines de millions de dollars, LeBron aurait pu oublier tout ça. Mais non, car LeBron le sait, s'il n'avait pas eu la chance inouïe d'avoir ce don pour le basket, il aurait pu finir pompiste à la station-service d'Akron, faute d'éducation. Ses souvenirs le travaillent, et c'est pourquoi en 2018, il concrétise son projet. Il nous présente son école, baptisée I Promise School, l'école Je Promets. Qu'est-ce qu'elle promet cette école ? Eh bien, d'accueillir tous les élèves en difficulté scolaire de la région, tous les élèves dits difficiles aussi, qui ont été parfois virés de leur établissement. LeBron, lui, il les prend. Il leur offre un uniforme, un vélo, 3 repas par jour et les titres de transport, le tout, et c'est ça qui est unique aux États-Unis, gratuitement. Cerise sur le gâteau quand on connaît le coût des universités là-bas. S'ils obtiennent le bac, ils auront une place assurée à l'université d'Akron. Rappelez-moi, Stéphane, vous êtes né où ?
À Lyon.
Oui, vous avez construit une école à Lyon ? C'est non. QFD. LeBron nous fait tous nous sentir minables.
Enfin, Lyon, zéro école.
Pardon, mais Lyon n'a
vous
pas
ne
besoin.
Pas d'école. Mais il y a peut-être des quartiers défavorisés, je crois.
Mais oui, mais hein, enfin,
vous auriez pu, vous auriez
oui,
pu Stéphane.
Pu, oui, oui.
Hein, oui, voilà. Et non, LeBron nous fait nous sentir minables. C'est son seul défaut, mais on lui pardonne, car vous l'avez compris, il revient de loin, de très loin. Il y a 30 ans, il était un de ces enfants défavorisés d'Akron. Son premier shoot enfant, il l'a fait dans un vieux caisson à lait fixé à un poteau téléphonique à l'aide d'un clou rouillé. Mais voilà, vous connaissez le célèbre adage belge.
Il n'y a pas forcément besoin d'avoir une canne à pêche pour aller chercher de la truite.
À 9 ans, son adresse intrigue déjà ses petits camarades et bientôt un coach le repère. Il s'appelle Frank Walker, il est coach de foot américain. Et vu les prédispositions physiques du petit LeBron, il l'oriente vers, devinez quoi ? Eh oui, le football américain. LeBron se révèle surdoué aussi. Frank devient son père putatif, il l'entraîne, il l'intègre même à sa propre famille. Au lycée, tout le monde voit LeBron devenir joueur professionnel de foot. Heureusement, Stéphane, heureusement, à 16 ans, LeBron a l'excellente idée de se péter le poignet. Fini le foot américain, et tant mieux, car ces 2 mois de repos forcé vont lui donner une idée. Et si, au lieu de pratiquer ce sport débile et violent qu'est le foot américain, je mettais à profit mes incroyables dispositions pour devenir le plus grand basketteur de tous les temps? Comme quoi, parfois, il suffit de réfléchir un peu. Hein. La suite, je ne vous la raconterai pas ici, parce que vous ne connaissez rien au basket, et que si je vous dis qu'à seulement 21 ans, il a réussi 47 triple-doubles sur une saison, et qu'il a fini MVP du All-Star Game avec 92% au lancer franc, votre regard vide de lamentin devant un banc de plancton ne trahira que l'incompréhension totale pour les mots que je viens d'employer. Ne pouvant faire votre éducation en 3 minutes, je vous renvoie à l'excellent mini-documentaire LeBron James, enfant de l'Ohio, disponible sur YouTube. Sachez simplement que dans sa carrière, il a joué pour les Cleveland Cavaliers, les Miami Heat, et aujourd'hui, il évolue donc aux Lakers de Los Angeles. Il a un contrat à vie avec Nike, comme Stéphane avec Mauboussin, mais pas pour le même montant. En décembre 2019, il a remporté le titre de sportif masculin de la décennie. Au chapitre de ses erreurs, on en fait tous, hein, on citera peut-être sa prestation dans Space Jam 2, un film qui n'a pas été très bien accueilli par Télérama. Mais c'est pas grave, globalement, LeBron a tout réussi et il n'a pas eu peur non plus de prendre la parole sur des sujets politiques et sociétaux, apportant notamment son soutien au mouvement Black Lives Matter. Et puis, il y a bien sûr cette formidable école dont l'ouverture reste pour lui, je cite, un des plus grands moments de sa vie, si ce n'est le plus grand. Il ajoute même, je pense que c'est tout simplement mon plus grand accomplissement. Voilà qui met beaucoup de choses en perspective. Tiens, David, vous, par exemple, c'est quoi votre plus grande fierté?
Un jour, j'ai offert un chat à mon père.
Ouais. Et en plus, vous n'êtes pas fichu de Dunkey.
Celui qui doit vendre les boules, c'est son vrai père qui l'a abandonné.
Boules, son père qui l'a abandonné. Alors lui, il doit se les, bouffer.
Ouais. Mais
alors,
ça doit être comme ouf. Quoi, toujours réfléchir avant d'abandonner un enfant.
Comment ouais. Ça vous fait réfléchir aussi, Olivier, c'est bien.
C'est dur de prévoir que ce sera le plus grand basketteur de tous les temps.
Oui, quand t'es à Akron voilà. Et que le gamin shoot dans des, ouais. Dans des paniers de lait, ouais. C'est sûr que c'est dur.
Merci Mathieu, en tout cas c'est une bien belle histoire. C'est comme un conte de fées.
C'est un conte de fées moderne.
4, c'était à 99% vrai, ce qui est faux concerne ou David ou moi.
Europe 1, historiquement vôtre.
Il est l'heure de dire au revoir à nos personnages du jour, des êtres exemplaires, à l'image d'ailleurs de nos chroniques.
Oui, faut le dire vite, oui.
Oui, bah écoutez.
Ils sont là, en tout cas.
Ils sont là, oui.
Ils ont le mérite d'être là.
Et puis, il va vous faire plaisir, Olivier Poul, si vous parlez de ce que vous aimez, le chorizo.
Oh, le chorizo.
Ben, vous savez, l'heure de l'apéro approche petit à petit, donc on pourrait peut-être se couper quelques tranches de chorizo tout à l'heure, les amis.
Mmh, volontiers, ça serait une très bonne idée. D'où vient-il? Vous nous raconterez. Mais d'abord, on va essayer de comprendre d'où vient, c'est une de vos passions, Olivier Poul. Souvent, vous dites, tiens, je me ferais bien une petite viande in vitro. Mmh. La viande in vitro, qui l'a inventée? David Castello-Lopez a la réponse.
Il n'y a pas énormément de causes auxquelles je sois très sensible, moi. Mais il y en a une quand même, c'est la souffrance des animaux. Ah. Voilà. Pas leur mort, hein, leur souffrance. Je pense qu'il y a plein d'arguments pour dire que la vie d'une vache, ça vaut pas tout à fait celle d'un être humain. Mais je crois qu'il y a assez peu d'arguments pour dire que la douleur d'un animal vaut moins que celle d'un humain. Parce que, ok, un animal, il a pas toutes nos capacités. Et genre, il peut pas lire Télé 7 jours. C'est pas possible. Une vache ne lira Télé 7 jours. Mais la douleur de l'animal, elle, c'est exactement la même que la nôtre. Il n'y a pas de différence. Si vous piquez un chat avec une fourchette, ça va produire exactement autant de douleur que si vous piquez Olivier Pouls. Vous voyez, ce sera pareil. Et donc, l'identification, elle ne peut être que totale. Bon, alors maintenant, qu'est-ce que je fais pour faire en sorte que les animaux souffrent moins? Eh bien, la vérité, c'est rien du tout.
Non, voilà. Vous faites rien. Vous avez beaucoup de viande.
À part être triste. Voilà. Je suis triste. Mais la tristesse, c'est comme les prières, hein, ça sert à avoir une moins mauvaise image de soi-même, mais ça ne change rien au monde. Alors oui, pendant trois mois de ma vie, il y a quelques années, j'ai été végétarien. Ça m'a fait du bien moralement. Ensuite, j'ai cherché s'il existait un label qui certifie que l'animal n'avait pas souffert quand on l'avait tué. Mais à ma connaissance, ça n'existe pas. Et donc voilà, je continue à manger de la viande et à me dire que c'est délicieux en pleurant, mais j'ai un rêve. J'ai un rêve, et ce rêve, c'est qu'un jour, on puisse fabriquer de la viande sans faire souffrir les animaux. Et ça fait, d'ailleurs, je suis pas le seul à avoir ce rêve, et ça fait longtemps que les gens l'ont. Vous savez, quelle est la première personne connue à avoir parlé de viande in vitro?
C'est quelqu'un qui est dans le milieu de la gastronomie ou pas du tout?
Pas du tout, c'est vraiment très 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 dur à trouver. Non, donc
c'est Jésus, Moïse.
Non,
Jésus.
Ce serait une bonne question de quiz final, ça. C'est Winston Churchill.
Ah non.
En 1931, qui avait dit en gros, grâce aux hormones, dans 50 ans, on pourra faire pousser du blanc de poulet sans le poulet.
Mais il était pas loin de la réalité.
Il était pas loin. C'était un peu plus tard, mais il était pas loin.
Mais il avait pris.
Exactement. Et puis, dans les années 60, on a découvert les cellules souches, ces cellules qui peuvent se transformer en d'autres types de cellules. Et un des premiers morceaux de viande in vitro, il a été créé en 1971. Bon alors, c'était un morceau d'aorte de cochon d'Inde. Oh. Je sais pas si vous avez déjà goûté de l'aorte de cochon d'Inde. Moi pas, mais j'imagine que si c'était bon, on saurait. Voilà, on aurait été au courant. Et puis dans les années 90 et 2000, disons que ça s'est un petit peu accéléré, en partie parce que l'urgence de trouver une alternative à la viande s'est faite un petit peu plus pressante. Non pas forcément parce que c'est triste de faire souffrir les animaux, mais parce que manger plein de viande, c'est pas bon du tout pour l'environnement. Pour produire des vaches, il faut des kilomètres carrés de terre, il faut des piscines olympiques d'eau qui seraient beaucoup plus efficaces pour produire d'autres trucs. Et le problème, c'est qu'à mesure que les populations pauvres du monde deviennent moins pauvres, ce qui en soi est très sympa, eh bien, elles sont comme tout le monde, elles veulent manger plus de viande. Et donc, il y a des start-up qui ont commencé à lever des milliards de dollars pour fabriquer de la viande in vitro. Le premier steak de bœuf in vitro de l'histoire du monde, il a été créé en 2013. Il a coûté 300 000 dollars à produire, voilà, ce qui fait cher quand même le steak. On y a rajouté en plus du colorant et des miettes de pain pour que ce soit mangeable. Oh. Et en plus, les critiques gastronomiques qui l'ont mangé, ils ont dit, en gros, ça va, hein, c'est pas mal, mais c'est pas non plus top. Vous voyez, c'est pas non plus du vrai steak. Ça fait cher le steak, le mauvais steak quand même. Et depuis, il faut dire que les startups de la viande de laboratoire arrêtent pas de dire que la viande in vitro partout, c'est pour demain. Et en fait, on attend toujours quand même, et c'est toujours reporté. Il y a un premier restaurant à Singapour qui a sorti des nuggets de poulet in vitro l'année dernière. Mais il y a pas mal de gens, dont Bill Gates quand même, qui commencent à penser que ce sera jamais viable économiquement. Et en plus, pour finir, il y a pour l'instant un petit paradoxe désagréable dans la production de viande in vitro. C'est qu'à l'heure actuelle, pour en faire pousser, il faut la plupart du temps utiliser du sérum fœtal bovin, qui non seulement coûte une fortune, 400 euros le litre, mais en plus, c'est un produit qui vient des abattoirs.
Oui, donc là,
c'est du sang extrait de fœtus de veau.
Se mord la queue.
Voilà, et donc c'est un peu antinomique avec l'idée d'une viande sympa et sans souffrance qui pousse toute seule. Donc bon, en gros, ça a pas l'air d'être pour demain la veille qu'on pourra remplacer nos côtes de bœuf décédées par des côtes de bœuf sans bœuf. Donc je vais devoir continuer à être triste pendant encore un moment.
On va tous être tristes autour d'une bonne côte de bœuf, Olivier. Ah, ça vous va?
Moi, je me réjouis pleinement, vous savez. Évidemment, je ne peux qu'être d'accord avec David sur l'idée de la souffrance animale est absolument insupportable. Il faut réformer un certain nombre de choses, mais bon, l'homme mange de la viande depuis des milliers d'années et j'ai pas l'impression que ça va s'arrêter tout de suite.
Oui, on n'en a pas besoin, mais c'est tellement sympa.
Mais déjà, on peut commencer à manger moins de viande.
Bien sûr,
on mange moins de viande, on mange de la bonne viande quand on peut, de la viande qui a été abattue dans des bonnes conditions, comme vous disiez Stéphane,
dans un avenir plus proche, les ressources de protéines qu'on utilisera, ce sera les insectes notamment.
Ah, ça, c'est votre grand truc, ça, les insectes.
Alors, c'est pas ma passion gastronomique, mais je peux vous garantir que là, pour le coup, dans les années qui viennent, on va en manger.
Mais le goût, c'est pas assez.
Ça n'a pas de goût.
Ça n'a pas de goût, c'est ça. C'est une texture. C'est une texture.
Merci David.
Côte de fourmis, c'est pas terrible.
On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et évidemment sur le site europe1.fr.
16h, 18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre, l'émission qui n'oublie pas vos papilles. Avec Olivier Pouls, chaque jour l'histoire d'une recette ou d'un produit. Aujourd'hui, on part en Espagne, Olivier.
Oui, vous aurez les deux, vous aurez le produit et puis la recette avec. Alors c'est vrai que c'est un emblème de la gastronomie espagnole. On le connaît depuis de nombreuses années, le chorizo, comme on dit là-bas. Il est à la mode, il est très à la mode chez nous. Je ne sais pas si vous avez remarqué, depuis quelques années, on en voit de plus en plus. Alors soit coupé finement sur les fameuses planches de charcuterie ou utilisés dans des recettes et sont essentiellement les chefs bistronomiques du sud-ouest qui l'ont apporté, qui ont mis un coup de projecteur dessus. Alors faut dire qu'il manque pas de caractère et qu'il peut s'associer à plein de choses, on va y revenir dans un instant. Alors quel est le secret de ce saucisson demi-sec? Parce qu'en réalité le chorizo c'est ça. Demi-sec, oui, il faut qu'il soit un peu moelleux. Justement, il faut pas qu'il soit trop sec, c'est le secret. C'est un habile mélange donc de maigre et de gras de porc auquel on ajoute le fameux pimentón. Et le pimenton, qu'est-ce que c'est?
Du piment.
Ben non, c'est un cousin du piment, c'est du paprika doux en réalité, souvent utilisé en poudre. On l'utilise, on le fait sécher, on l'utilise en poudre. On rajoute des épices et de l'ail, le tout évidemment est fourré dans des boyaux naturels et affiné environ 6 mois. Alors on peut pas dater exactement l'apparition du chorizo ou lui attribuer un créateur. On sait que déjà les Romains fabriquaient des saucisses et des saucissons qu'ils aromatisaient, mais le fameux pimenton, lui, qui compose donc le chorizo, n'est arrivé en Espagne qu'à partir du XVIe siècle avec les navigateurs espagnols et notamment probablement Christophe Colomb, exactement, qui les ont ramenés, qui ont commencé la culture. Et donc c'est à partir de ce moment-là que le chorizo vraiment se démarque des autres charcuteries et prend cette fameuse caractéristique qu'on lui connaît. Alors, une chose est certaine, le débat est tranché, il n'y a pas de chorizo dans la paella. Mais
ah bon?
Ah non, dans la paella officielle, on ne met pas de chorizo.
Mais c'est bon.
Alors, c'est bon. Non, mais j'ai rien contre.
Mais c'est sacrilège.
Mais c'est pour les puristes de la paella, c'est sacrilège. En revanche, on peut l'utiliser pour de nombreuses recettes.
Vous faites ce que vous voulez chez vous, hein.
Oui, bah, évidemment, personne. Il n'y a pas encore l'inquisition de la paella qui va venir vous brûler alors que vous avez mis quelque chose
sur les chorizo. Non, sur les pizzas aussi. Il y a des pizzas au chorizo.
Non, j'adore les pizzas avec du chorizo. La diavola, souvent, elle s'appelle.
Oh, voilà, oui.
on
peut en mettre dans des quiches, par exemple. Vous remplacez les lardons par des petits dés de chorizo. On peut les mettre dans des pâtes. On peut les rajouter à des courgettes sautées avec du poisson, comme du poulpe ou du cabillaud.
C'est idéal pour le nouveau régime de Stéphane, cette rentrée.
Idéal.
Ouais.
Ah oui.
Idéal.
Ouais,
idéal.
C'est très peu de points à Weight Watchers. Et moi, je vous propose de faire une petite crème de chorizo que vous pourrez utiliser pour agrémenter de nombreuses préparations. Ça vous tente, là, pour ce soir?
Une crème de chorizo.
C'est tout en légèreté, Stéphane.
Ouais, vous allez voir, il vous faut 150 grammes de chorizo, un joli morceau, hein. 50 grammes de crème liquide, mais entière, hein. Tant qu'à faire, bah non, on va pas prendre de la crème légère. Un oignon, une gousse d'ail, une cuillère à café, de paprika et une cuillère à café de piment d'Espelette pour redonner un petit peu de peps à tout ça, un peu de sel, un peu de poivre. Alors l'idée, elle est très simple, vous coupez le chorizo en petits dés, vous émincez l'oignon et l'ail, vous faites revenir le tout dans un petit peu d'huile, vous rajoutez le chorizo, on laisse cuire 5 minutes pour bien extraire les saveurs, les sucs et les goûts. On déglace, donc on rajoute la crème, le piment et le paprika et on poursuit la cuisson environ 5 minutes à très léger petit bouillon. Et ensuite, on laisse refroidir, on laisse bien infuser le chorizo dans cette crème avec tous ces éléments. Et puis, il n'y a plus grand chose à faire. On mixe le tout, on filtre, et voilà, on peut utiliser cette crème simplement sur un blanc de volaille, dans des pâtes, ou sur du poisson. Faites un joli morceau de cabillaud au four, et vous venez verser cette crème de chorizo par-dessus.
Une recette idéale, Stéphane, pour re-rentrer dans vos chemises. À nouveau, voilà, c'est vraiment la recette du moment.
Elle vous boudine un peu vos chemises
en ce moment,
Ça va, moi je mets des t-shirts là.
Il est en XXL, il n'y a pas plus depuis longtemps la différence. Merci Olivier, on retrouve toutes vos recettes sur le site d'Europe1.fr.
16h, 18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Vous savez, Stéphane, comment se termine désormais cette émission?
À la queue leu-leu.
Oui, non.
Tout
non.
le monde chahute.
Non, je veux dire à l'antenne, pas après, entre nous. Non. Ça se termine par ce jeu complètement idiot qu'on a baptisé la lutte finale.
C'est une lutte fratricide entre Olivier, Mathieu et David sur le terrain de l'histoire. Quel champion du jour? Allez, on va le découvrir. Olivier, la première question est pour vous. Aujourd'hui encore, la République française verse un salaire à un roi. C'est vrai ou c'est faux?
Un roi, ses héritiers, ou en tout cas, il n'y a pas de roi aujourd'hui en France. Il y en a qui prétendent être les héritiers du trône, donc non.
Mais en réalité, c'est faux pour une autre
Moi,
raison.
Moi, je crois que j'ai la réponse. C'est le roi, c'est pas Jean-Emmanuel Macron, il est pas roi de quelque chose en titre honorifique.
Non, il est prince, co-prince d'Andorre.
Co-prince d'Andorre.
Il a gagné, mais avec une réponse fausse. C'est ça qui est terrible.
Ah oui. Ma réponse est bonne, mais la justification n'est pas bonne.
Fausse,
mais
voilà.
On n'est pas jugé sur la justification.
Quand même. La France compte encore 3 rois.
Vous êtes dedans?
Non.
Il y a pas bien la liste, il voit qu'il n'est pas dedans.
Wallis et Futuna.
Ah,
les rois de Wallis et Futuna.
Oui, mais pourquoi? C'est l'État français qui les paye.
Mais bien sûr.
Ils les payent pour quoi faire? Pour être roi?
Oui. Ils ont 5 500 € par mois.
Tabac!
C'est ce qui maintient la cohésion de Wallis et Futuna. Hein,
ah, donc c'est important.
Oui, donc c'est important. Okay. Voilà. Donc voilà la raison pour laquelle il n'y a pas un salaire, mais 3 salaires. Alors David, une question pour vous. 1872, Joseph Opinel vient de naître. C'est donc à lui que l'on doit le célèbre couteau. Il existe des tailles de couteaux de 1 à 12, sauf qu'il n'y en a que 10 de disponibles. Car depuis 1935, la taille 1 et 11 ne sont plus fabriquées. C'est vrai ou c'est faux?
C'est pointu comme question.
C'est pointu comme question. Parce qu'en plus, elles sont fourbes ces questions. Ben non, c'est pas le 1 et 11, c'est le 1 et 9 qui sont plus fabriqués. C'est souvent des petits trucs comme ça, espèce de petite fourberie. J'ai envie de dire que c'est. Donc la 1 et 11 ne sont plus fabriqués. J'ai envie de dire que c'est faux.
Ah, il a une mauvaise réponse.
C'est vrai, oui, il a une mauvaise réponse. Alors que c'est vrai.
Même David, c'est vrai.
Ça vous coûtait rien de dire que c'était vrai.
Oui, c'est vrai.
Pour le coup, parce que personne s'en est aperçu.
Oui.
On ne le sait pas.
et on ne sait même pas pourquoi.
Non, mais c'est bien ce quiz, on apprend.
On s'en fout. C'est, c'est la complète. C'est la jambon fromage des questions cons. C'est-à-dire que la question n'a pas d'intérêt, la réponse non plus, et on
si
s'en fout.
Si vous voulez savoir pourquoi, n'allez pas sur le site officiel opinel.com. J'y suis allé, il n'y a même pas la réponse. Mathieu. Au Xe siècle en Perse, le grand vizir Abdul Ismail était connu pour se déplacer en demandant une seule chose partout où il allait. La seule chose qu'il demandait, il devait y avoir une piscine. Et s'il n'y en avait pas, eh bien, il attendait qu'on lui en construise une. C'est vrai ou c'est faux?
Bah ça, c'est comme vous, au moment de choisir où vous allez en vacances. Mais on est à quelle époque, vous avez dit?
Au Xe siècle en Perse. Le grand vizir Abdul Ismail.
Vous n'appelez pas ça vraiment des piscines, je pense, mais oui, des bassins.
Est-ce qu'un jacuzzi, ça pouvait remplacer?
Alors, une fois de plus, il faut essayer de voir quel est le raisonnement qui a précédé à cette question con. Une piscine, ou alors il avait une autre requête extravagante. Il avait peut-être une autre requête. Je dirais que c'est faux.
Il est fort, ce Mathieu Noël. Il est fort, il m'énerve. Oui, et c'est faux. Par contre, effectivement, il a une autre demande. Il exigeait, quand il se déplaçait, d'être toujours avec sa bibliothèque qui comprenait 117 000 ouvrages et ça tenait sur 400 chameaux.
On n'avait pas inventé le e-book encore.
Alors, voici la question qui les partage entre Mathieu et Olivier.
Donc, entre celui qui a répondu parfaitement à sa question et celui qui a eu raison par hasard.
Hein. Exactement. J'imagine que, comme moi, vous avez relu Roméo et Juliette pendant l'été.
Évidemment.
Dans la pièce de Shakespeare. Alors, je vous demande, dans la pièce de Shakespeare, quel âge a Juliette?
17 ans.
15 ans.
Moi, je dirais. C'est vous, Mathieu?
Bien sûr que c'est moi. C'est moi, Mathieu. Oui, Stéphane. Elle avait quel âge?
Elle avait 13 ans.
Elle avait 13 ans, oui, c'était oui, une autre
proche.
Époque. Hein.
Le vieux Capulet dit « Elle n'a pas vu le changement de 14 ans ».
Ah, c'est
beau, c'est triste.
J'aurais gagné. Triste. Franchement, j'aurais fait cette question, j'aurais
encore
gagné.
Encore voilà. Qu'il fallait arriver voilà, au stade de la finale, ce qui n'a pas été votre cas.
Eh bien, c'est la deuxième victoire en deux semaines de...
Merci à vous, bravo à moi. Un nouveau numéro d'Historiquement Vôtre s'achève. On en a pris plein les yeux aujourd'hui, Stéphane, avec trois personnages vraiment inspirants, chacun à sa manière, qui ont ouvert une école. Dans quelle école vous auriez aimé étudier? Celle de Florence Nightingale, de Maria Montessori ou de LeBron James, Stéphane?
Écoutez, plutôt Florence Nightingale, parce que j'admire beaucoup cette femme. Maria Montessori, si vous laissez un peu tard pour moi. Et le basketteur LeBron James, je ne veux pas prendre la place d'un petit garçon ou d'une petite fille d'Akron.
Vous avez
qui
raison.
A plus de difficultés que nous ici réunis, voyez-vous.
De belles histoires. En tout cas, demain, Stéphane, mon petit doigt me dit que nos personnages vont encore nous épater.
C'est incroyable, votre petit doigt est vraiment bien renseigné, Mathieu.
Hyper bien.
Parce que demain, ils sont montés tout en haut. Grimpe là-dessus, tu verras. Nos personnages du jour, les alpinistes Maurice Herzog, Edward Whymper.
Et lui, il est monté plus haut encore et plus récemment, à 80 000 mètres d'altitude. Le patron Richard Branson a carrément été dans l'espace. Je vous raconte tout ça demain. Alors à demain, les amis.
Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr.